Bonjour, auditeurs de Fréquence Mistral. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre américain, Là où chantent les écrevisses, l'auteur Delia Owens. C'est un livre qui a été publié au Seuil en 2020. Il a été traduit de l'anglais par Marc Amfreville. Je vous lis une partie du premier chapitre. 1952. Le jour brûlé par ce matin d'août et le souffle humide du marais suspendait des voiles de brouillard aux branches des chênes et des pins. Les bosquets de palmiers nains étaient inhabituellement silencieux, mis à part le lent battement des ailes du héron qui s'envolait de la lagune. Kia, alors âgée de 6 ans, entendit claquer la porte à moustiquaire. Juchée sur un tabouret, elle cessa de récurer les restes de gruau de maïs collés à la marmite et la plongea dans l'eau savonneuse déjà sale de la cuvette. Aucun son à présent, rien que sa respiration. Qui venait de quitter la cabane? Pas Ma. Elle ne laissait jamais la porte claquer. Mais quand Kia se précipita dans la véranda, elle aperçut sa mère, vêtue d'une longue jupe brune dont les plis d'aisance lui caressaient les chevilles, qui descendait le chemin sablonneux sur ses hauts talons, des chaussures à bout carré en simili-cuir d'alligator, celles qu'elle portait pour sortir. Kia aurait voulu crier, mais elle savait qu'il ne fallait pas réveiller Pa. Elle ouvrit la porte et se posta en haut des marches en briques et en bois du perron. De là, elle vit que Ma portait sa grande valise de voyage bleue. D'ordinaire, avec la confiance d'un chiot, Kia savait que sa mère reviendrait bientôt, les bras chargés de viande emballée dans du papier marron huileux ou d'un poulet entier dont la tête se balançait au bout de son cou. Mais jamais Ma n'avait aux pieds ses chaussures en alligator, ni ne portait une valise. Ma se retournait toujours à l'endroit où le chemin rejoignait la route, le bras levé bien haut, agitant sa main blanche, avant de s'avancer sur la piste qui traversait les forêts des marais et les lagunes envahies de roseaux pour gagner la petite ville quand la marée le permettait. Mais ce jour-là, elle poursuivit sans s'arrêter, d'un pas mal assuré entre les ornières. Sa haute silhouette émergeait par instants dans les trouées des bois jusqu'à ce que seules quelques images fugitives de son foulard blanc apparaissent entre les feuilles. Kia s'élança jusqu'à l'endroit d'où elle savait qu'elle pouvait voir toute la route. De là, elle en était sûre, Ma lui ferait un signe. Mais elle n'y arriva que pour entrevoir l'éclair bleu de la valise juste avant qu'il disparaisse. Elle sentit un poids sur sa poitrine, aussi lourd que des mottes de boue noire, et elle revint s'asseoir sur les marches. Kia était la Benjamine. Ses 4 frères et sœurs étaient tous beaucoup plus grands qu'elle, même si plus tard elle devait oublier leurs âges respectifs. Ils vivaient avec Ma et Pa, serrés comme des lapins au fond de leur clapier, dans la cabane en bois brut, dont la véranda bardée de moustiquaires fixait les bois alentour comme un gros œil rond. Jody, le frère qui précédait immédiatement Kia mais avait néanmoins 7 ans de plus, sortit de la maison pour se planter derrière elle. Il avait les mêmes yeux sombres et les mêmes cheveux noirs que sa petite sœur. Il lui avait appris des chants d'oiseaux, le nom des étoiles, et comment manœuvrer la barque entre les hautes herbes. « Elle reviendra, » dit-il. « Pas sûr. Elle avait ses chaussures en alligator. Une mère, ça abandonne pas ses enfants. C'est pas dans leur nature. Tu m'as dit que tu avais vu une renarde abandonner ses petits. Oui, celle-là, elle avait les pattes en capilotade. » Elle aurait crevé de faim si elle avait continué à essayer de nourrir ses petits en plus. Le mieux, c'était de les laisser se débrouiller, se soigner, et après en avoir d'autres quand elle aurait la force de s'en occuper. Ma, elle ne meurt pas de faim. Elle reviendra. Jody en était beaucoup moins certain qu'il affirmait. Il voulait avant tout rassurer sa sœur. la gorge nouée, elle murmura. Mais Ma, elle a pris sa grosse valise bleue, comme si qu'elle voulait partir loin. Ma ne revint pas ce jour-là. Personne n'en dit un mot, pas moins que tout autre. Empestant le poisson et l'alcool de son alambic, il referma bruyamment le couvercle des marmites vides. « Qu'est-ce qu'on mange ?» Les yeux baissés, frères et sœurs haussèrent les épaules. Pa lâcha un chapelet de jurons, puis reprit le chemin des bois en traînant la jambe. Il y avait déjà eu des disputes. Ma était même partie une fois ou deux, mais elle revenait toujours, prenant dans ses bras ceux qui réclamaient ses câlins. Les deux grandes sœurs préparèrent un plat de haricots rouges et de pain de maïs, mais personne ne prit place à table comme il l'aurait fait si Ma avait été là. Ils se servirent les haricots à même la casserole, émiettèrent le pain de maïs dans leur assiette et se retirèrent pour manger sur les matelas posés à même le plancher ou sur le vieux canapé défraîchi. Kia ne pouvait rien avaler. Elle s'assit sur une marche du perron, les yeux rivés sur le chemin. Grande pour son âge, maigre comme un coucou, elle avait la peau brunie par le soleil et les cheveux raides aussi épais et noirs que les ailes de corbeau. La nuit tombante mit fin à son guet. Le coassement des grenouilles couvrirait tout bruit de pas, mais elle resta malgré tout étendue sur son matelas dans la véranda, l'oreille dressée. Ce matin encore, la bonne odeur des rillons de porc qui rissolaient dans le poêlon en fonte et celle des biscuits qui doraient dans le four à bois l'avait réveillée. Enfilant en hâte sa salopette, elle s'était précipitée dans la cuisine pour mettre le couvert, avait ôté les verres de farine du gruau. Au petit matin, le plus souvent, avec un grand sourire, Ma la serrait dans ses bras. « Bonjour, ma petite princesse !» Et ensemble, elles s'attelaient aux tâches ménagères en un joyeux ballet. Parfois, Ma fredonnait des chansons folk ou récitait des comptines. Ensuite, c'était ce moment de bousculade où il fallait réveiller et nourrir tout le monde. Pa n'était pas là. Avec lui, il n'y avait que deux possibilités, soit le silence, soit les cris. Alors c'était aussi bien qu'il reste au lit ou ne rentre pas du tout. Mais ce matin-là, Ma ne disait rien. Son sourire avait disparu. Elle avait les yeux rouges. Elle s'était noué un foulard blanc sur la tête, un peu comme un pirate. Il lui descendait bas sur le front, mais on apercevait le bord violet et jaune d'une grosse bosse qui dépassait. Après le petit déjeuner, sans même faire la vaisselle, Ma avait fourré quelques affaires personnelles dans la grande valise de voyage et elle était partie vers la route. Le lendemain matin, Kia reprit son poste sur le perron, ses yeux noirs fixant le chemin comme un tunnel qui attend le passage d'un train. Le marais était enveloppé d'un brouillard qui tombait si bas que sa traîne descendait majestueusement jusqu'à la boue. Pieds nus, Kia pianotait nerveusement avec ses orteils et jetait sur des fourmilions des brins d'herbe qu'elle avait soigneusement torsadés. Mais une fillette de 6 ans ne peut pas tenir longtemps en place. Et elle partit caracolée dans la boue découverte par la marée, ses orteils s'y enfonçant avec des bruits de succion. Accroupie à la limite de l'eau claire, elle observa les petits poissons qui bondissaient entre les flaques de lumière et d'ombre. Plus tard, Kia s'installa de nouveau sur le perron et attendit longtemps. Mais alors qu'elle gardait les yeux rivés sur le bout du chemin, aucune larme ne lui échappa. Son visage restait imperturbable, les lèvres serrées et le regard attentif. Ce jour-là non plus, cependant, Ma ne revint pas. Alors c'est un livre donc qui se passe dans une petite ville de Caroline du Nord, Barclay Cove. Et ce premier chapitre se passe en 1952. Il faut faire très attention aux dates qui sont indiquées au début de chaque chapitre, parce qu'il y a des changements, donc on fait des retours en arrière. Dans une première partie, l'année 1952, qui a donc à 10 ans. Et cette année 52 alterne avec l'année 1969. L'année 1969, l'auteur la consacre à une enquête qui est menée par la police locale. On a découvert un corps, deux jeunes enfants de 10 ans ont trouvé le cadavre de Chase Andrews au pied d'une tour de guet dans le Marais. Et l'enquête va devoir déterminer pourquoi il n'y a aucune empreinte, aucune trace de pas au pied de la tour. La victime est un homme d'une trentaine d'années, marié, mais qui est resté la coqueluche des jeunes filles de Barclay Cove. Et puis dans une deuxième partie, on suit Kia, qui a maintenant 23 ans, en 1969 justement, et toujours alterne des chapitres consacrés à l'enquête. Alors revenons au début en 1952. Donc vous avez compris, une famille qui vit dans une cabane dans les marais, le père, la mère, quatre enfants. Une mère qui quitte la maison, juchée sur ses hauts talons en faux crocodile. Un père violent, qui lorsqu'il ne crie pas ou ne frappe pas, est continuellement ivre. Il boit de l'alcool de son alambic. Et puis, petit à petit, ses frères et sœurs, eux aussi, quittent la maison. Après le départ de Ma, durant les semaines qui suivirent, le frère aîné de Kia et leurs deux sœurs s'enfuirent aussi, comme pour l'imiter. Ils avaient supporté les accès de colère de Pa. Le visage rouge de rage, ils commençaient par vociférer, puis se mettaient à distribuer coups de poing et volées de revers. Et bientôt, un par un, ils décidèrent de prendre le large. Ils étaient presque adultes de toute façon. Plus tard, quand elle eut oublié jusqu'à leur âge, Kia ne parvint plus à se rappeler leur vrai prénom, sachant seulement qu'on les surnommait Missy, Murph et Mandy. Sur son matelas dans la véranda, Kia trouva un petit tas de chaussettes laissées par ses sœurs. Et puis son père lui aussi va disparaître un jour. Eh bien donc, Kia, une petite fille de 6 ans, se retrouve seule dans la cabane au milieu des marais. D'ailleurs, tous les gens de la ville l'appellent la fille des marais. Comment cette petite fille de 6 ans va-t-elle survivre dans un endroit où il n'y a personne? Elle est seule, c'est un endroit délaissé par l'homme, un endroit hostile et tellement inhospitalier et tellement menaçant. Mais justement, elle va faire du marais, je dirais, un allié, son refuge, son protecteur. Par exemple, quand les autorités viennent la chercher à l'âge de 7 ans pour l'obliger à aller à l'école, c'est la loi, elle ne peut pas y échapper. Elle accepte parce qu'on lui promet un bon repas chaud dans la journée. Et ce jour-là, il y a de la tourte au poulet. De la tourte au poulet. Elle n'en a jamais mangé, de la tourte au poulet. Ce qu'elle mange, c'est de la farine de gruau, des biscuits qu'elle fait cuire dans le four. Elle accepte donc, justement, pour avoir ce bon repas dans la journée. Mais la journée a été pour elle un vrai calvaire. Tout le monde s'est moqué d'elle, la fille des marais. Et quand elle revient chez elle en fin d'après-midi, elle ne s'arrêta pas à la maison, mais poursuivit sa course entre les palmiers jusqu'à la lagune. Et continua sur le sentier qui, à travers un épais bois de chêne protecteur, menait à l'océan. Elle parvint enfin sur la plage dénudée. La mer lui tendit les bras et le vent dénoua sa tresse quand elle s'arrêta au bord de l'eau. Elle paraissait prête à fondre en larmes comme elle l'avait été toute la journée. Dominant le vacarme des vagues qui rugissaient, Kia appela les oiseaux. L'océan était la basse, mouette et goéland les sopranos. Piaillant et criaillant, ils voltigeaient au-dessus du marais et du sable, tandis qu'elle lançait des miettes de tourte et de son petit pain sur la plage. Les pattes dépliées, se tordant le cou pour mieux voir, ils se posèrent. Quelques rares oiseaux picoraient gentiment entre ses orteils, et elle rit de leur chatouille, jusqu'à ce que les larmes lui coulent sur les joues et que enfin des salves de gros sanglots montent de sa gorge serrée. Elle pensa ne jamais pouvoir surmonter sa douleur. Elle avait trop peur que les mouettes et les goélands l'abandonnent comme tous les autres. Mais les oiseaux se posèrent sur la plage non loin d'elle et entreprirent de lisser les plumes de leurs ailes grises déployées. Elle s'assit en regrettant de ne pas pouvoir les rassembler pour les emmener dormir dans la véranda. Elle se les imagina blottis dans son lit, une masse duveteuse de plumes tièdes, tout contre elle, sous les couvertures. Vous avez compris que Kia a une véritable passion, je dirais, pour le marais et toute la faune et la flore qu'elle va découvrir. Et c'est pour ça qu'elle y passe toutes ses journées. Sa communion avec la nature est totale. Et justement, peu à peu, elle va comprendre comment vit un marais. Des mois passèrent, l'hiver s'installa lentement, comme toujours dans le sud. Le soleil, aussi chaud qu'une couverture, enveloppait les épaules de Kia et la poussait toujours plus loin dans le marais. Parfois, la nuit, elle entendait des bruits qu'elle ne connaissait pas ou était réveillée par un éclair tout proche. Mais chaque fois qu'elle trébuchait, la terre la remettait sur ses pieds. Jusqu'à ce qu'un jour, sans qu'elle apprenne vraiment conscience, la douleur qu'elle avait dans le cœur s'écoula comme de l'eau dans le sable. Elle était toujours là, mais cachée au plus profond. Kia posa sa main sur la terre mouillée et vivante, et le marais devint sa mère. Donc c'est dans le marais qu'elle va puiser justement les ressources dont elle a besoin pour faire face aux habitants de la ville qui vont, je dirais presque, la diaboliser et l'accuser de tous les maux, en faire presque une sorcière, et lui faisant surtout subir un racisme parce que différente. Et alors, on a des passages qui sont très beaux. On la suit sur son bateau en pleine nuit, suivie par ses fidèles oiseaux qui la connaissent, dans un marais sauvage, grouillant de vie. Un marais dont elle connaît chaque recoin. On la suit sur les bancs de sable, en train d'observer le fourmillement de la vie autour d'elle. Les goélands, les mouettes, tous les autres oiseaux, les hérons, l'herbe, les fleurs, les arbres, les coquillages, le chant des écrevisses, tout un appel que la terre lui envoie. Elle adore particulièrement les oiseaux, elle garde les plumes qu'elle trouve, et plus tard elle va se mettre à les peindre, ses plumes, et à dessiner toutes ses découvertes. L'air doux du marais enveloppait ses épaules d'un châle de soie. Les rayons lui montrèrent un chemin inattendu entre les pins, où les ombres se dédoublaient comme les vers d'un poème. Elle marchait telle une somnambule, tandis que la lune émergeait, nue de l'eau, et escaladait les chaînes de branche en branche. L'épaisse boue était baignée de lumière, et des centaines de lucioles constellaient les bois. On a comme ça de nombreux passages qui décrivent la nature. C'est très très beau, très poétique. Elle va vite apprendre à cuisiner et à pêcher. Et c'est ainsi qu'elle arrivera à survivre. Ce qu'elle pêche, les moules, les poissons, elle va les changer contre des vêtements, des graines de légumes, parce qu'elle va faire un jardin, tous les objets de première nécessité. Et puis surtout, pour avoir du carburant pour sa barque, parce qu'elle part toujours, toujours dans les marais, jusque vers l'océan. Parce qu'il y a quelques habitants qui ne la rejettent pas et au contraire l'aident. Il n'y en a pas beaucoup, mais en particulier Jumping, un vieux noir qui tient la pompe à essence et qui lui achète ses filets de moules et ses poissons. Elle fera de belles rencontres aussi, enfin pas toujours belles, des heureuses et des mauvaises. Et ces rencontres vont la façonner, je dirais. Car bien sûr, il y a dans ce roman des blessures, des préjugés, des trahisons. Mais face à la cruauté des hommes, il y a la nature, sa beauté, il y a l'amour, l'amitié et un espoir qui est toujours là et que l'on garde. Mais ça, je vous le laisse découvrir. Juste un dernier mot sur le sens du titre. Il nous est donné par un personnage important que Kia va connaître, qui s'appelle Tête. Ils vont tous les deux justement dans le marais pour découvrir la nature. Jumping m'a dit que les services sociaux me recherchent. J'ai peur qu'ils m'attrapent dans leur filet comme une truite. Alors on ferait mieux de te cacher là où on entend le chant des écrevisses. J'ai franchement pitié de la famille qui se retrouverait à t'adopter. Tête souriait de toutes ses dents. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'écrevisses qui chante ? Ma aussi, elle disait ça. Kia se rappela que sa mère l'encourageait toujours à explorer le marais. Va aussi loin que tu peux, tout là-bas où on entend le chant des écrevisses. Et Tête explique, ça veut dire aussi loin que tu peux dans la nature, là où les animaux sont encore sauvages, où ils se comportent comme de vrais animaux. Voilà, je terminerai en vous disant quand même deux mots sur l'auteur. Il y a le magazine La Croix qui, en quelques lignes, en a fait un portrait. Je vous le livre. Scientifique de renom, spécialiste du comportement animal, l'Américaine Delia Owens a passé son enfance à arpenter les forêts de sa Géorgie natale et sa vie d'adulte à étudier la faune au Botswana avec son mari. De ses expériences, elle a tiré des essais qui lui ont valu d'être distinguée pour sa manière précise et sensible de décrire la nature. À 70 ans, elle connaît en Amérique un succès phénoménal et mérité pour ce premier roman, Là où chantent les écrevisses, qui allie l'amour et la connaissance des milieux naturels à un véritable talent pour raconter une histoire. Voilà, j'aimerais que vous découvriez donc ce livre et que vous l'aimiez. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.